Nous sommes en compagnie de l'écrivain Gérard Farras, qui est professeur émérite de littérature française à l'Université du Littoral, co-directeur de la Revue des sciences humaines et spécialiste de Francis Ponge, dont il fut l'ami. Il vient de publier « Vie parallèle » de Francis Ponge aux éditions Alcide et André-Pierre de Mandiargue, « Francis Ponge, lettres familières » aux éditions Imeros et aussi « Dentelle, dit-elle » aux éditions du Rosier Grimpant. Tout nous reparlerons d'ailleurs avec les éditeurs qui sont ici présents. Alors Gérard Farras, plus qu'un spécialiste de Francis Ponge, vous en étiez l'ami. Et ça, c'est tout à fait intéressant.
Ben, ça a été une chance pour moi de rencontrer Francis Ponge quand j'étais jeune homme. J'avais eu l'outrecuidance de lui envoyer un mémoire de maîtrise que j'avais écrit sur lui. Et donc, il m'a, à la suite de cet envoi, il m'a accueilli chez lui. Puis nous avons noué amitié. Et oui, j'avoue que c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi, et en particulier de voir sa modestie, parce que c'était quand même un grand homme, extrêmement accueillant, extrêmement bienveillant, qui a toujours cherché à m'encourager. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui et pour son œuvre, parce que c'est d'abord son œuvre qu'il nous a apporté, et une œuvre qui change radicalement l'idée qu'on peut se faire de la poésie. Voilà.
Quel genre de rapport vous aviez avec lui, puisque vous étiez très jeune et lui était déjà un petit peu âgé?
Il aimait beaucoup parler de son travail, donc quand j'allais chez lui rue Laumont, il me montrait les textes qu'il était en train de rédiger, il me faisait part de ses inquiétudes, de ses doutes, c'était surtout sur des problèmes techniques, est-ce qu'il fallait mettre ce mot-là, est-ce qu'il fallait utiliser telle traduction latine. C'était en technicien qu'il parlait plutôt de son travail. Donc on a eu des rapports dont la médiation était la littérature.
Ça veut dire qu'il faisait drôlement confiance au jeune homme que vous étiez, et vous, du coup, ça vous donnait confiance en vous, peut-être?
Ça m'a donné confiance en moi, c'est vrai, mais en même temps, ça m'a empêché... longtemps, je crois, d'écrire, parce que j'avais une telle admiration pour ce qu'il faisait qu'on ne pouvait pas rivaliser. On ne peut pas rivaliser avec ce qu'il a écrit. Donc, j'ai un sentiment partagé. Oui, j'ai le sentiment qu'il m'a apporté beaucoup de choses, qu'il m'a donné confiance en moi, mais à certains moments... j'avais une réticence à écrire parce que c'est un personnage trop considérable ou à qui je vouais une admiration trop grande peut-être.
Oui, c'est ça, c'était un petit peu votre maître, donc il a fallu le quitter à un moment.
Oui, c'était un maître, pas seulement un maître d'écriture, c'est aussi un maître de vie, parce que c'était quelqu'un qui... dont la morale de vie ne se séparait pas de la morale d'écriture. C'est extrêmement important. Lui n'a jamais séparé, par exemple, l'homme et l'œuvre. Pour lui, l'œuvre vaut ce que vaut l'homme. Et pour améliorer une œuvre, il faut d'abord s'améliorer soi-même. C'est pas un discours qu'on entendait beaucoup dans les années 70, où on disait le texte, rien que le texte, surtout n'évoquons pas l'auteur, ni la biographie, et ainsi de suite.
Donc c'était plutôt un écrivain philosophe?
C'était quelqu'un qui avait fait des études de philosophie importantes. D'abord, à la Sorbonne, il a préparé l'école normale supérieure. Il a échoué à l'oral parce qu'il refusait de répondre aux questions qui lui étaient posées.
Et pourquoi donc, il avait refusé?
Ben je crois que le jeu scolaire l'ennuyait, l'indisposait.
Il était déjà un peu frondeur quand même.
Oui, il a toujours été, je crois. Voilà. Je crois qu'il a eu une éducation assez bonne, une excellente éducation dans un milieu favorisé, et qu'il a été aimé, qu'il a été entouré, qu'il a eu une formation musicale poussée, par exemple au piano. Et je crois que tout ça a fait que... Il était assez sûr de lui prendre des risques, pour être frondeur, pour gager toute son existence, par exemple, sur l'écriture. Ce qu'il a connu, il faut le rappeler, dans des périodes de misère noire, et pour s'engager comme cela au risque de la misère, de la pauvreté, il faut vraiment une solidité psychique.
À toute épreuve, effectivement. Alors, son projet d'écriture, c'était finalement favoriser le bonheur.
Oui.
Et là, on revient donc à la philosophie, finalement.
Oui, bon, il a toujours protesté contre Pascal. Pascal, c'est un ennemi pour lui parce qu'il donne une image extrêmement noire de l'homme. L'homme pour Pascal n'existe pas par rapport à Dieu, par exemple. Mais c'est aussi quelqu'un qui réprouvé très très fortement le fait que les écrivains se complaisent dans l'évocation de problèmes métaphysiques insolubles, qu'ils se tourmentent. Et il dit à plusieurs reprises qu'il ne faut surtout pas flatter le masochisme humain. Et donc ces œuvres sont des œuvres qui vont vers le bonheur. Il y a un texte de lui qui s'appelle « Raison de vivre heureux ». Et parmi ces raisons de vivre heureux, il y a l'écriture, et l'écriture de la sensation à propos d'objets tout à fait quelconques. Oui, je crois que même si le mot est galvaudé, il y a un humanisme de Ponge. Il y a la certitude que chez lui, l'écrivain est quelqu'un qui doit donner à jouir à l'esprit humain. C'est sa formule.
Et peut-être aussi une recherche de simplicité. Alors, dans Vie parallèle, vous tentez une analyse critique du réseau d'amis Francis Ponge, qui est quand même assez impressionnant, parce qu'il y a... Alors, donc, dans votre livre, vous avez choisi Paulhan, Fargue, Camus, Calais, Mandiargue, Jacotet et Solers. Alors, vous avez choisi ces sept-là parce qu'ils comptent plus pour lui, ou parce que vous les trouviez plus intéressants?
Ça dépend desquels. Par exemple, le personnage qui est le plus compté pour Ponge dans sa vie littéraire et dans sa carrière, c'est évidemment Jean Paulhan, qui l'a publié à la NRF, hein, même si l'amitié qu'il a eue avec lui a été parfois orageuse, hein, comme le dit sa correspondance. Il y a d'autres personnages comme Calais, par exemple. Ponge avait beaucoup d'amitié pour Henri Calais, mais l'œuvre d'Henri Calais n'a vraiment rien à voir avec celle de Ponge. Ce sont des gens très très différents, des esprits très très différents. Ça n'est pas une amitié littéraire. Avec Paulhan, c'est une amitié littéraire. Avec Calais, c'est une amitié d'homme à homme. Calais, paraît-il, était quelqu'un d'extrêmement séduisant, et donc Ponge était séduit par le personnage d'Henri Calais.
Oui, il était tombé sous le charme. Quels étaient ses rapports avec Solers?
C'était une grande amitié, une amitié très 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 vive. Quand Solers a connu Ponge, il ne s'appelait pas encore Solers, il n'avait rien écrit, il n'avait rien publié. Et Ponge va l'encourager. Il va l'encourager notamment en l'aidant à créer la revue telle qu'elle. Ensuite, Solers va acquérir de la célébrité. Et Solers va lui rendre en quelque sorte ce que Ponge lui a donné, puisque Solers va défendre son œuvre. Il va militer pour que Pour un Malherbe, le livre auquel Ponge tient beaucoup, soit publié. Ils vont avoir des entretiens, et la célébrité de Solers va rejaillir en quelque sorte sur Ponge. Donc on a un échange tout à fait équilibré. Mais c'est une grande amitié qui s'est terminée pour Ponge par une déception, hein, puisqu'il y a eu une rupture assez violente. On peut penser que cette rupture du côté de Solaire, c'est due à des raisons politiques, puisque Ponge, qui avait été communiste entre 37 et 47, a évolué ensuite vers le gaullisme. Et quand mai 68 est arrivé, on en parlait tout à l'heure, quand mai 68 est arrivé, Ponge était sur des positions extrêmement proches de celles de Gaulle. Il défendait De Gaulle, il défendra ensuite Chirac.
Mais ça, c'était pas pour Solers.
Ça, c'était pas pour Solers, qui, à l'époque, s'orientait vers le. Enfin, d'abord vers le Parti communiste, puis ensuite vers les maoïstes. Hein, donc, il y avait un désaccord politique qu'on ne voit pas dans les entretiens qu'ils ont ensemble et qui ont été publiés au Seuil et chez Gallimard, qui étaient des entretiens pour la radio, pour France Culture, qui ont eu lieu, si je me souviens bien, vers 67. On ne voit pas le désaccord parce que chacun d'entre eux s'abstient de parler politique. Lorsque Solers évoque la révolution culturelle
de Mao,
Ponge lui répond en disant que le mot révolution a un sens très précis, c'est le retour dans un cercle au point de départ. Donc c'est une façon pour lui de ne pas s'engager dans ces questions politiques.
Effectivement. Alors vous avez par ailleurs édité les lettres échangées entre Francis Ponge et André-Pierre de Mandiargues entre 1950 et 1980. Ils étaient très proches, ces deux-là.
Oui, ils ont été très 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 proches. C'était une grande amitié entre Ponge et Mandiargues. Mandiargues avait la plus vive admiration pour Ponge. Il a écrit à quatre reprises sur lui. Il a toujours défendu son œuvre. Lorsqu'il en parle, c'est toujours avec les plus grands éloges. Et de son côté, quand on regarde les correspondances de Ponge, on voit que Ponge range Mandiargues parmi ses amis. C'est un peu étonnant parce que ce sont deux personnages que beaucoup de choses éloignent, en particulier le fait qu'on peut considérer que Mandiargues est une sorte de post-surréaliste. Et le surréalisme, pour Ponge, n'est pas une voie dans laquelle on peut s'engager. Il a vu quelle était la grandeur du surréalisme, hein, la grandeur de nouveauté, la grandeur de rupture, hein, par rapport à la tradition, notamment par rapport aux écrivains de la Nouvelle Revue Française. Mais en même temps, c'est quelque chose qui lui semble la continuation du romantisme, et il récuse absolument le romantisme et donc le surréalisme.
Alors, ce qui est intéressant, en tout cas, dans la forme épistolaire, c'est que ça permet d'approcher le quotidien des gens. Et quand ce sont des écrivains, on apprend énormément, finalement, sur des petites choses simples de la vie, des échanges tout à fait qui pourraient nous paraître banals à nous, mais qui, finalement, sont importants dans l'œuvre.
Je ne sais pas, moi j'ai le goût du détail, hein, donc j'ai le goût du détail et de l'anecdote. Alors c'est sûr que dans une correspondance, on trouve ce genre de choses. Hein. Par exemple, dans la correspondance avec Mandiargues, de Ponge et de Mandiargues, on voit que Mandiargues s'enchante de découvrir l'étymologie du mot porcelaine, vulve de truie. Et bon, ça l'amuse évidemment parce que il y a tout un arrière-plan érotique, hein, chez Mandiargues, pas seulement un arrière-plan. Donc oui, on trouve des petites choses sur le climat, la météo, le temps qu'il fait.
Et parce qu'il voyage beaucoup, Mandiargues.
Voilà. Ah, Mandiargues voyage. Ponge ne voyage pas, il reste à Paris. Il est dans la période de la correspondance, il est plutôt dans une période de misère, hein, dans une période de difficultés financières. Mandiargues va régulièrement en Suisse, en Italie, il va en Égypte, il va au Mexique. Et donc on peut suivre tous ces voyages. Les lettres qu'il écrit du Mexique sont des lettres très, très longues, très détaillées, où il y a beaucoup d'anecdotes intéressantes. Et puis des renseignements, évidemment, sur les goûts, sur les goûts littéraires, hein, de chacun. Par exemple, on découvre que Mandiargues a lu le poète américain Cummings, ou des choses de ce genre.
Puis du coup, il fait voyager son ami Francis Ponge, et c'est pas plus mal. Alors, Gérard Farras, merci. On vous retrouve dans quelques instants, on vous quitte pas, puisqu'on vous retrouve avec Nicolas Guélin et Sarah Didier-Charlet pour Dentelle dit-elle, juste après la musique de Guénin. Sur le 106.6 de Radio Campus jusqu'à 14h. Nous sommes en compagnie de Nicolas Guélin qui a fondé à Boulogne-sur-Mer avec Sarah Didier-Charlet Le Rosier Grimpant, une édition associative tournée vers la micro-édition de livres d'artistes. Parmi les dernières parutions du Rosier Grimpant, il y a Dentelle dit-elle de Gérard Farras, accompagné des gravures de Sarah Didier-Charlet. Alors vous aussi, Gérard Farras, tout comme Francis Ponge, vous vous intéressez aux choses et aux objets. Et vous l'avez exprimé dans Collection particulière. Et puis vous récidivez donc avec Dentelle dit-elle, que j'ai trouvé que c'était presque un petit polar. Et donc c'est le Rosier Grimpant qui vous a accueilli pour cette édition. Alors pour prendre connaissance de Dentelle dit-elle, je pense que la meilleure façon c'est que vous nous en lisiez un extrait. Et après on pourra en discuter.
C'est au stand de tir de la police nationale, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, où je vais régulièrement m'exercer au tir, que j'ai fait sa connaissance. Nous étions souvent côte à côte, lui armé de son 500 Smith & Wesson et moi d'un plus modeste 357 Magnum. Casque sur les oreilles et lunettes de protection sur les yeux, nous avions peu l'occasion de nous adresser la parole, mais nous nous croisions parfois à l'accueil ou dans les vestiaires. C'était un homme de haute taille, taciturne et sévère, et nous ne nous serions certainement jamais parlé si je n'avais eu la mauvaise ou la bonne idée d'essayer à mon tour un 500 Smith & Wesson. Peu habitué au recul de cette arme puissante, je fis un bond en arrière tel, en appuyant sur la gâchette, qu'il s'en aperçut et, ôtant son casque, me conseilla de garder le bras plus souple. C'est ainsi que nous fîmes connaissance, nous n'échangeâmes que peu de mots. Nous retrouvions bientôt notre routine. Nous nous croisions, nous nous saluions, rien de plus. Lorsqu'un jour, au sortir du stand, il me proposa à brûle-pourpoint de prendre un verre à la terrasse du bar des amis. Pris de court, j'acceptai. C'était un homme qui m'intriguait. « Je vous ai observé, me dit-il devant un café, vous ne serez jamais tiré. Il y faut plus de sang-froid. » Il faut surtout tirer comme si c'était la seule façon de ne pas mourir, comme s'il n'y avait plus d'autre recours pour survivre que d'appuyer sur la gâchette. Dans ce cas-là, ajouta-t-il, on vise juste. Il continua ainsi un moment à me tenir ce discours désobligeant sur l'art et la manière de tirer. Puis se tut. Mon café refroidissait. « Convenant d'un rendez-vous, me dit-il brusquement, je vous montrerai ma collection. » Sa collection ne m'intéressait guère, mais j'acquiesçais, parce que je désirais en connaître un peu plus sur cet étrange personnage.
Gérard Farras, merci pour cet extrait de Dentelle, dit-elle. Alors pour en savoir plus, bien sûr, eh bien, il faut lire le livre, c'est fait pour ça. Alors Nicolas Guélin et Sarah Didier-Charlet, comment s'est faite votre collaboration éditoriale avec Gérard Farras pour Dentelle, dit-elle ?
Alors j'ai rencontré Gérard Farras lors d'un salon du livre à Lille. Il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas directement, mais j'avais lu un livre qui m'avait frappé, qui s'intitule « Un amour de lecteur » et qui avait ce ton particulier d'être à la fois érudit et sensible. J'en avais gardé donc un souvenir précis et j'avais vu sans doute son visage sur des photos ici ou là. Je me suis adressé à lui, je me suis présenté, lui ai expliqué sans aucune intention particulière. Je lui ai présenté donc nos récentes activités et il a eu la gentillesse immédiatement de se montrer curieux et puis de me parler d'un texte qu'il avait et qui cherchait à être édité depuis quelque temps. Et il s'offrait de nous l'envoyer dans les plus brefs délais. Et nous l'avons reçu le lendemain. Voilà comment les choses ont commencé.
D'accord, donc le texte préexistait à votre rencontre. C'est pas vous qui l'avez commandé, par exemple.
Non, celui-là, nous ne l'avons pas commandé. Il s'agit de Normale saisonnière. Et c'est un texte qui a été édité sous les formes d'un livre d'artiste. Gérard souhaitait aussi précisément collaborer avec un ami peintre, Michel Joulet. Et donc c'est lui, Michel, Sarah et moi qui avons pendant près d'un an réalisé pas à pas cet ouvrage en décidant de tous les éléments qui devaient le constituer. Nous l'avons édité à 7 exemplaires, seulement 7 on pourrait dire, mais c'est le principe du livre d'artiste puisque en fait il n'y en a eu 15 de fabriqués, mais chacun a reçu une intervention plastique. Peinture de Michel Joulet, sur la couverture d'abord et un cahier central ensuite.
Bien sûr, et du coup, chaque livre est une œuvre unique. Alors, Sarah Didier-Charlet, vous avez donc fait des gravures pour Dentelle, dit-elle. Alors, comment vous avez travaillé donc,
Alors, mes parents ont travaillé dans la lingerie, donc j'ai été bercée dans la dentelle. Et en arrivant à Boulogne, c'était pas très loin de Calais, donc je me suis dit que j'allais utiliser la dentelle dans la gravure, puisque je fais de la gravure depuis quelques années. J'ai fait toute une série de livres avec des de gravures avec de la dentelle. Et après Normale saisonnière, j'ai proposé à Gérard un livre, de faire un texte à partir des gravures, dont le thème serait la dentelle. Et il a accepté. Et s'est surpris lui-même en écrivant cette petite nouvelle policière.
Donc ça y est, je commence à comprendre. En fait, c'est vous qui aviez envie de faire quelque chose autour de la dentelle. Vous avez demandé à Gérard, qui a écrit le texte ?
Qui avait quand même déjà envie de faire quelque chose autour
oui.
de la dentelle.
Bon, d'accord. Et puis finalement, comme vous étiez aussi éditeurs, tous les deux, ça tombait bien.
Voilà.
D'accord. Ça y est, j'ai tout compris. Alors en fait, Le Rosier Grimpant, c'est une toute jeune maison d'édition, Nicolas.
Oui, ça fait 4 ans. Bon, j'ai déjà raconté plusieurs fois cette naissance.
Mais pas dans Traverse, donc vous allez
recommencer. Non, mais je le fais avec beaucoup de plaisir. Elle n'était pas prévue, en quelque sorte. Nous nous sommes rencontrés, est venu s'installer avec sa famille à Boulogne, où je vivais déjà, et a enseigné, enseigne toujours, nous enseignons dans le même établissement, donc nous avons appris à nous connaître. Nous sommes d'origine lyonnaise, tous les deux. Nous aimons les livres, pour des raisons diverses, et spécialement les beaux livres. Nous en avons parlé, et puis nous avons aussi rencontré un lieu pas commun, que vous connaissez sans doute ici, qui est la librairie-galerie L'Espace du Dedans, et nous avions sympathisé avec Marie-Christine Dubois, qui est la propriétaire de cet endroit, qui propose à la fois des expositions de peinture, mais aussi qui propose l'exposition et la vente de livres d'artistes.
Et qui est aussi artiste elle-même.
Et qui est aussi artiste elle-même, voilà. Et donc, je crois que c'est au retour d'une de nos virées lilloises que l'idée saugrenue de faire des livres tels que cela nous est venue. Alors, j'ajoute toujours que nos caractères s'opposent et que c'est pour la meilleure des raisons. Pour moi, les choses sont plutôt d'abord impossibles et pour Sarah, toujours possible. Alors, ça fait 4 ans que ça dure, donc ça doit être une bonne association.
Je pense que c'est bien parti, effectivement. Sarah, vous faites de la gravure aux éditions du Rosier Grimpant, mais pas que.
Non, je travaille à l'école des Beaux-Arts de Boulogne avec Pascal Hautecoeur, qui m'a appris la gravure parce que je ne connaissais pas du tout.
Pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans la gravure ?
Alors, parce que je vais en vacances chez un sculpteur dans le Midi et il se trouve que dans son atelier, il y a une très belle presse et je lui ai demandé de m'apprendre au départ ce que c'était que la gravure, à quoi servait cette presse et il l'a fait. Donc, il m'a lancé un peu et puis quand je suis revenue à la rentrée à Boulogne, je me suis inscrite au cours de Pascal.
Donc, tout ça, finalement, paraît évident.
Oui.
Voilà, effectivement, je reconnais le côté positif des choses, là.
Oui, oui. De même, enfin, si je peux faire un petit compliment, Sarah a une façon de travailler à la gravure qui est assez singulière, assez personnelle, particulière. Son professeur, donc Pascal Hautecoeur, lui avait dit d'emblée qu'il lui faudra beaucoup de patience, beaucoup de méticulosité, respecter toutes les étapes de la fabrication. Elle n'en a fait qu'à sa tête. Dans la précipitation, et tout ça marche très bien.
Oui, c'est ça, elle était pressée de réaliser des choses, donc elle a inventé, du coup.
Elle a un peu inventé, elle est en train d'inventer des moyens, des motifs, et oui, elle fait la gravure comme elle l'entend. Oui.
Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Calais et du musée de la dentelle ?
Alors, j'ai fait une petite exposition là, de mes dernières gravures avec de la dentelle au musée, et ça s'est bien passé. Il y a eu une lecture d'ailleurs du texte de Gérard, c'était il y a 15 jours, donc voilà, qui était très agréable à entendre. Et ben là, ça y est, c'est fini, j'ai retiré les œuvres et je les ai remises sur mes murs.
Oui, effectivement, histoire d'en profiter un petit peu.
Voilà.
Alors, quelles sont les joies et les peines d'un éditeur associatif à Boulogne-sur-Mer, Nicolas ?
Pas de peine, pas tellement.
Formidable.
Non. D'abord, nous avons toujours. Nous sommes enseignants de français. Nous n'avons aucune compétence en la matière. C'est peut-être d'ailleurs un métier qui n'en demande pas tellement. Nous ne sommes pas relieurs. Voilà. Donc, le papier, tout ça se découvre. Alors, chaque livre est pour nous l'occasion d'apprendre, de découvrir et de résoudre des problèmes. Et on se fait aider. Alors, jusqu'à présent, on a toujours rencontré des personnes très aimables, disposées à nous aider. Et nous éditons environ 2 livres par an. Ça nous prend 6 mois à peu près pour faire un livre. On pourra d'ailleurs difficilement en faire davantage et plus vite. Et tous sont très différents. Alors ça, c'est très important.
On apprend des choses à chaque livre.
Voilà. Alors on apprend des choses différentes pour chaque livre. Le format, le papier, la façon de les relier, les supports, les impressions, enfin tout ça.
C'est ça qui est intéressant.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
On a rencontré aussi des gens qui s'occupent d'un atelier de typographie. Mm-hmm. Donc, ils nous ont fait visiter...
À Boulogne
Dans la banlieue parisienne, l'atelier du Cadratin, avec qui nous avons collaboré 3 fois, notamment pour Normale Saisonnière.
D'accord. Hein.
Donc, on a rencontré, pour l'instant, pas d'échecs. Enfin, en tous les cas, pas de choses impossibles à réaliser. La municipalité, spécialement les services de la bibliothèque, nous soutiennent, c'est-à-dire qu'ils nous accueillent s'il faut pour nos lectures, pour la présentation de nos ouvrages. Ils achètent nos tirages de tête, toujours, et puis les salons et d'autres personnes nous aident pour faire tout ça.
Donc vous êtes soutenu, et puis bon, finalement la vie est belle du côté
de Boulogne-sur-Mer. Oui. Alors nous éditons normalement, jusqu'à présent, chaque livre a 100 exemplaires. Ce sont de petites quantités.
On augmente. 150.
Oui, les derniers, 150. Et puis, les tirages de tête sont autour de 10 exemplaires. Alors voilà, évidemment, tout ça est modeste. Mais le principe est simple. Un livre, par la vente d'un livre, le suivant trouve les moyens de se fabriquer.
Voilà. Eh bien, ça me semble une excellente solution, en tout cas, très sage. Nicolas Guélin et Sarah Didier Charlet, merci. On vous retrouve très prochainement d'ailleurs à la Nuit du Livre d'Esquelbecq, le 7 juillet.